10 minutes chronique. On lui a donné toutes sortes de noms. La crise, les années noires, le fléau rampant, et d'autres plus modernes ou plus branchées comme la Z guerre mondiale, voire la première guerre Z. À titre personnel, je n'aime pas beaucoup cette dernière appellation dans la mesure où elle implique une seconde guerre Z. Pour moi, cette tragédie reste avant tout la guerre des zombies. Et si certains s'avisent de critiquer la rigueur scientifique de l'expression, je les mets au défi de trouver mieux pour désigner les créatures qui ont bien failli nous exterminer. Zombie, un mot terrible, à la puissance d'évocation sans pareil, un mot capable de faire ressurgir nos souvenirs les plus intimes, nos angoisses les plus profondes, souvenirs et angoisses qui forment l'ossature du livre que vous tenez entre vos mains. Ce que vous venez d'entendre, ce sont les premiers mots de l'introduction du livre de Max Brooks, World War Z, paru en 2006 aux États-Unis et traduit en France en 2009. Dans ce récit, la guerre des zombies est finie, laissant quelques survivants dans un monde en ruine où l'apocalypse a bien failli avoir lieu et l'humanité éradiquée. Le narrateur en mission pour l'ONU a rencontré les derniers témoins de ce cauchemar. Ce sont leurs témoignages successifs qui nous sont livrés sous la forme d'entretiens organisés chronologiquement dans un rapport construit par chapitre. Premier symptôme, la faute, la grande panique, retournement de situation, première ligne, autour du monde et ailleurs, guerre totale, adieu. Voici le début du chapitre numéro 1. Premier symptôme. Région du Grand Chongqing, Fédération chinoise unie. Avant la guerre, cette région comptait plus de 35 millions d'habitants. Aujourd'hui, il en reste à peine 50 000. Le gouvernement privilégie les zones côtières plus peuplées. Aussi, les fonds levés pour la reconstruction ont-ils mis beaucoup de temps à atteindre cette partie du pays. De ce côté du fleuve Yangtze, il n'y a ni centrale électrique, ni eau courante, mais les rues sont propres et le Conseil de sécurité local prévient toute reprise de l'épidémie. Le responsable du conseil s'appelle Quang Jingxu, un médecin qui, malgré son grand âge et ses blessures de guerre, effectue toujours ses visites à domicile. Voici le témoignage de ce dernier. Le premier cas dont j'ai été témoin s'est produit dans un village isolé, dépourvu de tout nom officiel. Malgré le nombre toujours croissant d'accidents de la route dus à l'alcool dans la région, la nuit était calme et l'hôpital silencieux. J'étais fatigué, j'avais mal au dos, aux pieds, et je comptais bien m'offrir une cigarette pour saluer le lever du soleil, quand on m'a bipé. Le réceptionniste de service était nouveau et n'avait pas entièrement suivi le dialecte de son correspondant. Il y avait eu un genre d'accident où quelqu'un était malade. Seule certitude, c'était urgent et pouvait-on envoyer quelqu'un au plus vite, merci. J'ai eu toutes les peines du monde à trouver l'endroit. Le village n'avait aucune existence officielle, aucune carte ne le mentionnait. Je me suis égaré à plusieurs reprises, et j'ai dû demander mon chemin à des paysans qui persistaient à vouloir m'indiquer la ville-musée. Hors de moi, j'ai quand même fini par atteindre un petit rassemblement de maisons en haut d'une colline. Ils avaient vraiment intérêt à avoir une bonne raison de me déranger. Une pensée que j'ai aussitôt regrettée quand j'ai vu leur visage. Ils étaient 7, à peine conscients, tous allongés sur des matelas. Les villageois les avaient rassemblés dans leur salle de réunion communale, flambant neuve. Les murs et le sol étaient en ciment brut, l'atmosphère froide et humide. Pas étonnant qu'ils soient malades, ai-je immédiatement pensé. J'ai d'abord voulu savoir qui avait la charge de ces gens. Personne, m'ont répondu les villageois. Trop dangereux. J'ai remarqué au passage qu'on avait verrouillé la porte de l'extérieur. Tout le monde était clairement terrifié. Certains marmonnaient et chuchotaient. D'autres gardaient leur distance ou priaient ostensiblement. Leur attitude m'a mise en colère. Pas directement contre eux, vous comprenez. Plutôt pour ce que ça révélait sur la Chine en général. Après des siècles d'oppression étrangère, d'exploitation et d'humiliation, nous reprenions enfin notre place, celle qui revenait de droit au glorieux empire du milieu. Nous étions la superpuissance la plus riche au monde, la plus dynamique. Nous maîtrisions l'espace comme le cyberespace. Cette nouvelle ère, l'humanité la nommerait un jour le siècle chinois. Et malgré ça, nous continuions à vivre comme des paysans ignorants, incapables d'évoluer, aussi superstitieux que des Yang Chao primitifs. J'étais toujours perdue dans ces considérations sociologiques, en m'agenouillant pour examiner la première patiente. Elle avait au moins 42 fièvres et tremblait violemment. J'ai essayé de lui plier les membres, mais elle n'a poussé qu'un faible gémissement inaudible. Son avant-bras droit était blessé, une morsure. La largeur de la mâchoire et la marque des dents accusaient un être humain. Petit, sans doute jeune. Voilà la cause de l'infection, me suis-je dit, mais la blessure restait étonnamment propre. Une fois de plus, j'ai demandé aux villageois qui avaient soigné ces gens, et une fois de plus, on m'a donné la même réponse. Personne. Je savais que c'était impossible. La bouche humaine grouille de bactéries, bien plus que celle du plus sale des chiens errants. Si personne n'avait nettoyé cette morsure humaine, pourquoi n'était-elle pas infectée? J'ai ensuite examiné les 6 autres patients. Tous présentaient les mêmes symptômes et tous portaient le même genre de blessures à différents endroits du corps. J'ai demandé aux plus lucides d'entre eux qui les avait mordus. Il m'a répondu que c'était arrivé alors qu'ils essayaient de le maîtriser. Maîtriser qui? La guerre mondiale des zombies a commencé. Et ce livre, World War Z, est devenu un best-seller. Mais c'est quoi un zombie? Dans le cinéma des années 30 aux États-Unis, la figure du zombie était associée aux fantasmes liés au vaudou et au réveil des morts. Elle était la métaphore de l'esclave dont seule comptait la force de travail et dont la personne était niée. Dans le film La Nuit des morts-vivants en 1968, George Romero apporte une dimension différente. Ces zombies déferlent en horde et deviennent le symbole de l'effrayante inattendue, d'un quelque chose qui pourrait atteindre l'individu et l'humanité entière, dans une dimension inouïe et irrémédiable. C'est le déclenchement d'une réflexion où le zombie n'apparaît plus comme un simple objet de divertissement, mais celui d'une pensée critique. Au commencement, au cinéma, les zombies sont une horde terrifiante et silencieuse, d'êtres impensables auxquels personne ne peut s'identifier, trop morts et trop vivants, sans parole, sans réflexion. Une seule chose les fait mouvoir, manger, dévorer des êtres humains qui, à leur tour contaminés, dévastent et remplacent progressivement l'humanité. On pouvait aisément les mettre dans la case du simple divertissement, cinéma de genre, pop culture. Au rythme du questionnement sur les significations qu'il peut prendre, il va changer progressivement de sens, jusqu'à ne plus être seulement une silhouette errante et affamée de chair humaine. Désormais, des colloques universitaires leur sont consacrés, des conférences, des essais, des articles. Les émissions de radio et de télévision se multiplient. Ils se sont infiltrés dans les réflexions des philosophes, de sociologues, de neurologues, d'ethnologues. En se saisissant du sujet, les uns et les autres ont dévoilé les préoccupations et les peurs de la société contemporaine. Avec cette constante, cet autre, est-ce que ce pourrait être nous, un jour? Nous sommes arrivés au terme de la chronique d'aujourd'hui. Le 23 février, je vous parlerai de comment survivre en territoire zombie. Soyez à l'écoute, on ne sait jamais. En attendant, vous pouvez consulter le site MCH à la rubrique 10 minutes chronique pour y trouver des liens, des images. À bientôt.